Bonjour et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui flashouille les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Salut Yassa.
Salut Thomas.
Et aujourd'hui, nous avons un invité. Non, ce n'est pas un extraterrestre, quoique quand on écoute son podcast, on pourrait se poser la question. C'est David du podcast Pamela Target.
Salut Thomas.
Pamela Target, la saga MP3, on peut dire, funky et barré.
Exactement, oui.
Complètement starbé. Et donc, on va voir un film complètement starbé aussi. Enfin, on l'espère.
On l'espère très fort.
MIB International, Men in Black 4. Exit Tommy Lee Jones et Will Smith.
Qui est trop occupé à être un bon papa.
Ça aurait été difficile de caser des enfants ici, puisqu'ils doivent tout effacer derrière eux, donc c'est assez compliqué.
Ils gardent Emma Thompson en chef du... C'est une suite, quoi. Enfin, c'est une suite avec d'autres agents, quoi.
Donc, on a failli avoir un spin-off. Ça aurait pas été vraiment une suite.
Sur Franck le Chien avec Kevin Spacey dans le rôle titre.
Alors, ça aurait été suite ou spin-off. Après, ça, on va pas débattre sur la terminologie, mais il y a failli y avoir autre chose que ce qu'on va voir à l'écran. C'est-à-dire que il y a quelques années, il y a une autre licence de chez Sony qui cartonnait.
Ah oui.
C'est 21 Jump Street. Et donc, les producteurs se sont dit « Hey les gars, on a deux licences qui marchent, et si on les mélangeait ?»
Aussi étrange que ce pari ait pu être. Alors moi, Jonah Hill et Channing Tatum, dans 21 Jump Street, dans Men in Black, je pense que j'aurais pu kiffer. Si on assume totalement le pouvoir nanardesque du truc, on va donner là pour kiffer, se marrer et faire un gros nawak, mais carrément quoi.
Alors d'ailleurs, je crois que ça se serait appelé MIB 23. Alors, et exactement, tu disais, Jonah Hill et Channing Tatum étaient gardés pour le scénario. Par contre, Tommy Lee Jones et Will Smith étaient déjà dégagés. Hein. Ça, c'était pas au programme. Bon, par contre, c'était compliqué niveau licence et scénario. Bon, bref. Bonne ou mauvaise nouvelle, on verra. Qu'est-ce que vous attendez de ce film? Tiens, je me tourne vers toi, David. Qu'est-ce que tu attends de ce film?
Au moins de passer un bon moment. Bon, il faut que je raccorde avec les films précédents, puisque je les ai pas tous en tête en détail. Mais oui, déjà, de passer un bon moment et puis de retrouver un peu cette ambiance un petit peu barrée qu'il y avait dans les premiers et qui, moi, m'avait plu à l'époque.
Ben, de rigoler, déjà, comme j'avais rigolé pour le premier. Le 2, le 3, j'ai des vagues souvenirs du 2. Le 3, je m'en souviens. Je sais que je l'ai vu, mais je m'en souviens absolument pas. Et j'ai un petit peu peur de ce que j'ai vu dans les bandes-annonces, d'un petit peu trop de féminisme, enfin de féminisme mal déguisé quoi.
Tu fais référence à la réplique ouais. Woman in Black.
Ben si c'est la seule, ok, mais si ça commence à être lourdeau.
Plus exactement, c'était Men in Black. Oui, j'y travaille, un truc comme ça.
C'est ça, voilà. Enfin, si vous regardez la bande annonce.
Moi, je sais pas du tout quoi en attendre parce que, alors Men in Black, moi j'ai vraiment grandi avec. J'avais l'âge qu'il fallait quand le premier est sorti, donc c'était l'une des premières VHS que je torchais en boucle. Et c'est une saga qui a été très malade. On a forcé Barry Sonnenfeld à faire un second épisode très rapidement, chose qu'il voulait pas faire. Du coup, il l'a bâclé. Il a pris son temps pour faire le troisième. Moi, je trouve qu'il est plutôt réussi. Je suis assez content du troisième. Je me suis bien amusé devant et surtout, ça proposait d'autres choses. Il a décidé d'arrêter. Du coup, ses copains Will Smith et Tommy Lee Jones ont fait « Ok, on arrête avec toi ». Et sauf que, bah voilà, les producteurs sont pas contents et ils ont mis F. Gary Gray, quoi. Et F. Gary Gray, c'est le summum du Yes Man. C'est le mec qui a fait Fast and Furious 8. Et Fast and Furious 8, qu'on aime ou pas cette licence, chaque auteur qui y a touché a mis un petit peu de soi. Sauf le 8. Le 8 est le plus insipide, le plus affreux à regarder. C'est même pas un nanar, quoi. Je veux dire, c'est juste chiant, quoi.
Oh, il y a un sous-marin, oh.
Il y a un sous-marin, mais sans François Civil, ça compte pas. Donc, du coup, voilà, le voir. Enfin, du coup, je me dis, bon, ils ont pris un mec lambda, donc c'est pas sur lui qu'il faut miser. Donc, sa mise en scène sera sûrement lambda. Il faut miser sur les scénaristes, il faut miser sur ce qu'ils veulent faire. Le casting est sympa. Moi, j'aime bien Tessa Thompson et Chris Hemsworth. Des gens qui ont un potentiel à me faire rire assez prononcé. Je m'attends à me marrer, je m'attends, voilà, de toute façon, comme tu disais David, de toute façon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de raccorder, puisque au final, le seul truc que ça aura de commun, je pense que c'est l'ambiance. Le côté, c'est une police de l'espace qui bute des aliens à tout va, qui essaie de foutre le dawa sur Terre. Je pense qu'il n'y aura rien de plus que ça dans un autre contexte. Mais le seul truc que j'ai peur, c'est que voilà, c'est que ne sachant pas à quoi se raccorder, ils fassent comme le second, c'est-à-dire qu'ils centrent tout autour de Franck le Chien, parce que c'est le comic relief et qu'ils se disent, si on fait les blagues que les fans aiment bien, ça passe. Et j'ai très peur de ça.
Moi, il y a un signe qui me fait un peu peur. Tu as cité le casting, tu as oublié de citer Liam Neeson. Un acteur que j'aime beaucoup, mais en général, quand il est dans le film, ça sent pas bon.
Je pense pas qu'on va le voir beaucoup, hein.
Oui, c'est Liam Neeson que quand il est en personnage principal, quand c'est vraiment lui la tête d'affiche, que ça fait peur. Là, bon...
Moi, j'ai très peur, comme on l'a vu beaucoup dans la bande-annonce, quand même, mine de rien, j'ai très peur que ça soit l'ancien mentor qui s'en aille, qui prenne sa retraite, ou à qui il arrive un accident, qui disparaît, et à la fin, on apprend qu'en fait, c'est lui le méchant.
Ah ouais, peut-être. Ah,
mais ça serait tellement original avec lui en plus.
Je voulais y venir après, en fait, c'est pour ça.
Vous savez ce que je propose? Vous allez regarder cette petite lumière rouge et on regarde la bande-annonce.
We are a rumor. Recognizable only as déjà vu and dismissed just as quickly. Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London.
Welcome to MIB.
Moving on, loser!
You will be with Agent H, one of the best ever to wear this suit.
Catching up on my daily meditation. Time for lunch, I think. Are you hungry?
It's 9:30.
Perfect. Tuesday's taco day.
When I come to the club, step aside. Pop the seats, don't be heavy in the line. VIP, cause you know I gotta shine.
We've been compromised. It puts every citizen of this planet at risk.
Nous sortons du film. Un film dans lequel Chris Hemsworth joue le héros parfait, le méga badass, que le film va prendre soin de dégrader l'image au fur et à mesure pour en faire en raté petit à petit. Et à côté de lui, il y aura Tessa Thompson en héroïne, un peu en retrait au début, mais qui va se montrer au final plus forte, plus valeureuse. Non, je n'ai pas résumé Thor Ragnarok ou Avengers Endgame, j'ai résumé Men in Black International. Est-ce que c'est un bon résumé du film?
Effectivement, la première chose qui m'a frappé, c'est que Chris Hemsworth me faisait penser à Thor crâne rasé, enfin cheveux courts et en costume, et c'était le même personnage qu'ils ont développé dans Ragnarok et dans Avengers, enfin, le même type de caractère un peu branleur qui se la raconte, si vous me passez l'expression.
Bourrin aussi, hein.
Un peu bourrin, ouais, beaucoup bourrin en fait.
Mais peut-être avec un côté séducteur aussi, un peu. Oui, parce qu'il drague 2-3 extraterrestres par-ci, par-là. Il a beaucoup de succès auprès des extraterrestres, Chris Hemsworth.
Oui, c'est MIB Bond.
C'est ça. C'est le point aussi que je voulais aborder, c'est que autant les premiers MIB, c'était un peu du film noir, une caricature de film policier. Ici, on est plus sur du style James Bond un peu. Chris Hemsworth est une caricature de James Bond, c'est le beau gosse, il est un peu bourru, il drague un peu, il couche à droite, à gauche. Et International aussi, on va à droite, à gauche, on a des scènes carte postale aussi, on a des jolis décors. Alors, jolis décors, ça dépend des fois. Parce que très souvent, c'est un beau fond vert avec un beau fond derrière et on a mis un peu de sable pour faire til, on est dans le désert. Mais
il y a deux fois où j'ai bien senti le fond vert, ça a fait mal aux yeux.
Et ça va pas du tout, hein. C'était oh là 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 là. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont capté un truc qui n'était pas ce qu'il fallait capter, c'était il faut respecter le lore du truc, il faut absolument montrer ce que les gens ont envie de voir. Alors du coup, il y a un bestiaire qui est sympa, il y a le côté on retrouve les gadgets, les objets, les si, sauf que du coup, c'est un copier-coller. C'est, il y a un moment où il faut appuyer sur le bouton rouge, il y a un moment où il faut faire ci, il y a un moment où il y a les quatre langoustes qui passent et qui font des trucs. Justement, ce que moi j'aimais bien dans Minimal 3, parce que c'était tout ce que Barry Sonnenfeld avait décidé d'éviter. En mode, je ne remets plus rien de ce que vous connaissez et je vous amène ailleurs. Et là non, là c'est du brossage, mais au service d'un truc qui est creux, vide, d'une intrigue qui met 30 ans à se développer, qui s'étale dans la longueur, qui rajoute des rebondissements à deux balles pour la faire avancer, pour apporter de la consistance, parce qu'il n'y en a pas.
Moi, je ne suis pas aussi véhément contre ce film. Je ne le trouve pas mauvais. Je ne le trouve pas bon non plus. Je trouve qu'il colle bien avec son sujet. C'est-à-dire qu'on a des Men in Black, c'est-à-dire que ce sont des mecs qui doivent passer partout, qui doivent se fondre dans la masse. Eh bien, j'ai un film assez moyen et qui se fond dans la masse. C'est-à-dire que j'ai des effets spéciaux. Bon, ils sont là, c'est correct, mais c'est pas non plus foufou. On voit les écrans verts par moment, c'est un peu dommage, hein, voilà. La mise en scène, elle est pas fofolle, mais elle fait le taf, même si bon, les 2-3 scènes d'action sont là. L'intrigue, elle est bateau à souhait, on la calcule. Enfin, vous avez déjà vu le film. Là, je suis désolé de vous avoir spoilé en première partie en annonçant mes craintes, mais c'était tellement prévisible qu'on avait écrit le scénario avant de venir voir le film. Je suis désolé. Non, c'est pas très... On est en pleine vague féministe, il nous faut des héroïnes. Alors du coup, ben, on va vous en mettre de l'héroïne, on va vous mettre de la femme forte et de la femme leader, et on va appuyer là-dessus, parce que c'est ça qu'il faut, hein, n'est-ce pas?
Ben, c'est un petit peu ce dont j'avais peur. On sait pas autant que ce que j'avais appréhendé, mais on a des petites phrases comme ça qui sont obvious, quoi. C'est... Il y a tellement de moments en fait où ça aurait pu passer crème, tu vois. Elle prend le volant, mais ah non, attends, je veux prendre le volant, tu vois. Ben vas-y, installe-toi et prends le volant, quoi. C'est pas. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a 3-4 phrases comme ça qui m'ont. Ah, j'étais pas bien, quoi. Franchement, vous auriez pu le faire passer beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement. Mais sinon, en vrai, il m'a pas déplu, je me suis pas ennuyée. Mais il m'a pas super plu non plus, quoi. Enfin, je dis beaucoup plus. Il m'a pas plu autant que ça. Et j'ai regardé, j'étais, ouais, ok, ça se tient. Enfin, avec tous les extraterrestres qu'il peut y avoir, etc. J'ai dit, ouais, j'étais là, je disais, ouais, ça se passe bien, je comprends. Tout est plutôt raccord. Enfin, le scénario, bon. Franchement, le scénario, je l'ai très vite mis derrière moi parce que c'était assez cousu de fil blanc. J'ai pas fait très attention à plein de choses.
C'est un scénario un peu comme un James Bond. C'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point B sur le globe, mais on ne sait pas pourquoi. On s'en fout, c'est comme James Bond, on ne sait pas. Il y a des méchants là-bas, il faut y aller, et donc il y a une mission. Alors la mission, on te dit juste, bon là aujourd'hui c'est une infiltration, là c'est une récupération, là c'est une escorte, et voilà, et bon, on s'en fout. Allez, c'est parti, allez, amusez-vous, quoi.
Ouais, c'est ça, et puis James Bond à l'agent Q, donc ce qui raccorde avec MIB, c'est sympa.
Q est un Men in Black.
Ouais. Uh-huh.
Pour en revenir à ce que tu disais du coup sur l'appui du féminisme à balles qui est hyper agaçant, surtout quand t'as Tessa Thompson et qu'il n'y a pas besoin de dire qu'elle est badass, Tessa Thompson est badass, mon bar. C'est, il y a juste un passage que j'ai trouvé sympa, où là oui c'était pas essentiel, mais en tout cas c'était intelligent de le montrer, c'est le passage où ils doivent séduire plus ou moins un alien pour l'embarquer avec eux, et le gars il fait style, ouais tu vas pouvoir te taper ma collègue, vas-y, et elle va voir, elle fait, attends t'es sérieux là, tu m'envoies tapiner connard. Et là, ça c'était pertinent. Là, c'est une façon de dire, mec, c'est bon, ça suffit la femme objet. Par contre, t'es pas obligé de le dire toutes les 3 secondes, quoi.
Effectivement, il y a un truc par rapport à James Bond. Enfin, moi, qui m'a manqué un peu dans le film et qui n'était pas forcément présent dans les Men in Black d'avant, c'est qu'en fait, finalement, les personnages, ils sont posés dès le départ et ils changent pas. Et ça, c'est très James Bond aussi, en fait. Enfin, c'est très, ils évoluent pas. Donc, tout ce qu'ils rencontrent, c'est que des obstacles, que des problèmes extérieurs à eux. C'est les aliens qui leur mettent des bâtons dans les roues. Mais eux, psychologiquement, il n'y a rien, en fait. Ils sont un trait de caractère, ils suivent leur route. Et les deux, hein, le Tessa Thompson ou Chris Hemsworth, enfin, moi, ça m'a beaucoup frappé dans le film, en fait. Ça, et le fait que, du coup, comme tu n'es jamais vraiment angoissé sur est-ce qu'ils vont s'en sortir, donc il n'y a pas vraiment de tension dramatique pendant tout le film. Et je pense que c'est ça aussi qui joue sur le fait qu'on se dit ouais, bon, il y a de l'action, ça bouge, il y a des trucs, mais. Il manque quelque chose, en fait. Il manque un truc qui t'inquiète ou qui t'entraîne dans l'histoire à leur côté, quoi.
Je pensais vraiment que le film allait partir dans une autre direction parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire, en fait, au personnage de Chris Hemsworth, je sais plus quoi. C'est une lettre, je m'en souviens plus. Age, voilà. Ils n'arrêtaient pas de dire à Age, t'as changé. Je me disais, peut-être que c'est peut-être lui qui va être le méchant. Je pensais vraiment à chaque fois que la phrase revenait, j'étais là, ah ouais, c'est peut-être lui, tu vois. Puis il avait un petit peu une sale gueule, tu vois. Enfin, je dis que Chris Hemsworth a une sale gueule, mais vraiment, il me semblait un peu malade, quoi. Les yeux rougis, enfin, je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, je l'ai vu un petit peu malade, quoi. Et du coup, je pensais vraiment que ça allait partir dans cette direction-là, mais bon, finalement, ils ont joué la sécurité.
même pas la sécurité, elle est surtout dans l'afflux du... On va montrer ce qu'il fait. Donc, il y a les scènes où il trouve les gros guns dans la voiture de partout. Il y a une scène où ça m'a particulièrement dérangé parce que j'ai trouvé ça hyper mal fait. Et c'était juste dans l'optique du les gens veulent voir comment les aliens se fondent et comment ils passent. Ils vont dans une espèce de métro qui est une rame de métro logique, mais qui est déjà dans le QG, dans le QG du Men in Black New York, qui se transforme en énorme vaisseau qui les amène au Men in Black Londres. Et voilà. Donc du coup, ils sont dans un QG d'aliens. Il y a que des extraterrestres et des Men in Black. Et ils ont besoin de changer. Et c'est un métro qui se transforme en vaisseau. Du coup, pourquoi c'était un métro à la base? C'est pas comme s'ils rentraient dans une bouche de métro, ils vérifient qu'il n'y a personne, et là, ça se déguise. Ou, là, s'ils veulent le faire intelligemment, ils arrivent au métro londonien. Là, le vaisseau devient une rame de métro pour qu'ils se fondent dans le décor. Non, là, c'était juste histoire de dire, regardez, ils ont de la technologie. Sauf que ça sert à rien. Et c'est plein de trucs comme ça. À la limite, dans Men in Black, ce qu'on a envie de voir, c'est des univers où il y a tout le monde et où ils sont déguisés en humains pour se fondre dans la masse. Et non, là, ils arrivent, les mecs, ils sont à volo parce qu'au final, il y a tellement d'endroits pour eux que... Bon, ce qui est logique aussi, qu'on crée des endroits pour eux. Mais ça gâche ce petit côté-là. Alors, il y a des trucs sympas, genre celui... Il y a un alien qui se cache dans une barbe, par exemple, qui a un morceau de barbe, en fait. Ça, c'est intelligent. Il y en a d'autres qui se déguisent en pion d'échecs. Voilà. Ça, oui, c'est intelligent. Mais Mais c'est plein de conneries. Moi, il y a un autre truc qui m'a dérangé. Alors là, pour le coup, ça n'a aucun rapport avec même Men in Black ou quoi que ce soit. C'est juste une faute de cinéma qu'il ne faut plus faire. Ils vont à Marrakech. Ils sont dans un quartier où ça parle français, où on voit des personnages entre eux qui parlent français. Donc le personnage en question est un Marocain français. Et quand il parle tout seul à lui-même, pour pas nous perdre parce qu'ils ont fait deux croix en français, il se met à parler en anglais. Il se parle à lui-même.
C'était aussi quelque chose qui manquait, c'était que deux méchants qui disent une phrase de tout le film, en fait, finalement, qui n'ont aucun charisme, enfin, dont j'ai découvert, tu m'avais expliqué tout à l'heure.
Ce sont des danseurs super connus, ce sont les Twins. Ce sont les frères Bourgeois, ce sont des Twins, ce sont des mecs qui sont hyper connus dans le milieu de la danse et de la musique et de la pop, tout, parce que les mecs sont des tueurs à la danse. Ce sont les Twins.
Attends, t'es en train de dire qu'ils ont pris juste des gens connus pour faire les méchants, parce que comme ça, ça allait peut-être accorder du monde qui allait le voir pour eux. Ah mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour le prochain ? Prendre une modèle de Victoria's Secret ?
Et alors, donc ce sont des super danseurs, donc ce sont des mecs qui, oui, on les a pas pris pour leur jeu, hein, parce qu'ils vont faire la gueule pendant tout le film, donc on les a pas pris pour ça. Mais normalement, en expression corporelle, ils sont censés être super balèzes. Et donc, on a des méga danseurs et on les voit danser, quoi, 3 secondes,
ouais,
à peu près.
Ça,
pour moi, c'est une déception. Quand je les ai vus, je me suis dit, ah, on va se servir de leur corps, on va se servir d'eux pour avoir des postes, pour avoir de la posture, pour avoir une gestuelle particulière. Et c'est pas exploité. Ou alors, c'est un fragment de dixième de seconde pendant une scène de baston où les mecs bougent un peu quand les deux agents du MIB arrivent pas à se mettre d'accord s'il faut lever les mains ou se mettre au sol. Donc les mecs, ils ont 2-3 soubresauts, mais disons que tu prends pas des méga danseurs pour faire ça, quoi. C'est-à-dire que
ouais. En fait, ils ont la même démarche du Terminator quand il arrive, quoi. C'est ça.
Ouais.
y a pas de. Alors par contre, je savais pas que c'était des danseurs. La danse que j'avais vue, je pensais vraiment que c'était des effets spéciaux pour le coup.
Non, alors là, par contre, les 3 secondes où on les voit danser, je suis quasiment certain que c'est vraiment eux qui dansent. Hein. Non.
Et en effet, du coup, c'est quand même dommage qu'on en voit pas plus parce que ouais, c'est assez impressionnant.
Ah ouais, non, mais les mecs sont capables de faire ça, bien sûr. Non, c'est complètement. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence à faire passer Men in Black au niveau international parce que y en a marre de tous ces extraterrestres qui n'atterrissent qu'à Manhattan.
Ouais.
c'est un truc assez bizarre. Après, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre aussi. On dit que ça respecte l'univers, mais les Men in Black, je les voyais pas aussi nombreux, mais pourquoi pas, admettons. Et surtout, on dirait que c'est incroyable de sauver le monde une fois tous les 5 ans. Alors que les mecs, leur boulot, normalement, c'est sauver le monde 3 fois par jour. Non mais et ça je te parle de la locale de New York. Là les mecs sont censés être à l'international, ce sont les mecs qui bougent d'un secteur à l'autre. Donc les mecs sauver le monde, mais ils doivent faire ça mais tous les jours H24.
Mais je pense que ça doit être aussi beaucoup de paperasse puisqu'ils accueillent des extraterrestres. Enfin il y a des relations diplomatiques dont ils doivent se charger, etc. Donc ça doit être aussi beaucoup ça. Et peut-être que ça serait les grosses menaces, elles n'arrivent pas peut-être aussi facilement si le système de filtrage est bon, quoi.
Quand tu vois contre qui ils se battaient, même dans les premiers, c'était des méchants mineurs. Il y a un moment où il y a quand même une planète qui met, enfin un vaisseau qui met un embargo sur la Terre en mode vous nous livrez le gars ou on vous bute tous. Donc là, oui, ça fait un gros enjeu. Mais à chaque fois, les mecs, c'est juste un mec lambda d'une planète qui, au final, font un bordel monstre. Donc oui, en soi, il n'y a pas que de la paperasse, quoi.
Ouais.
Ça, c'est ce qui manque aussi, cette espèce de côté à les apartés hyper humoristiques qu'on peut avoir partout. Alors, une fois de plus, s'ils veulent faire autre chose, pourquoi pas. Mais du coup, ils sont toujours d'entre deux et ils concentrent l'humour sur les deux personnages et sur leur relation entre eux, ce qui fait que le duo marche sans marcher. Et le côté, alors on voit du bestiaire, on voit des trucs, mais on les voit jamais interagir, on fait jamais des blagues avec eux. Il y a jamais les moments où, quand ils sont en train de marcher dans le QG et ils voient quelqu'un qui est en train de sortir ses poches, de mal signer un truc. On le voit vite fait, mais on s'attarde pas dessus. Et ça, c'est limite dommage de pas avoir tout cet univers, de nous montrer que c'est grandiose, qu'il y a énormément de trucs qui se passent, quoi, dans cet univers, quoi.
Bah, comme du coup, ils bougent pas de caractère entre le début et la fin, leur relation aussi, enfin, elle se pose au début d'une manière. Et elle évolue pas spécialement de toute l'histoire, parce qu'ils s'entendent déjà un peu dès le départ, en fait. Ils sont pas en bisbille ou en conflit et ils deviennent pas amis à la fin. Ils s'entendent, mais ils se vannent. Et à la fin, ils s'entendent bien et ils se vannent bien. Donc ça aussi, c'est ça manque, mais c'est une conséquence du fait qu'ils sont posés, archétypés dès le départ et qu'ils ne bougent pas. C'est que leur relation suit le même fonctionnement. Et du coup, ça aussi... Bah, ça fait partie de tous ces petits trucs qui font que tu regardes, mais t'es pas happé dans quelque chose, quoi. T'es pas attaché au personnage, en fait. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti.
Avec un petit soupçon de love interest léger, mais même s'il se passe rien.
Non, justement, j'allais dire le contraire. J'allais dire justement, moi, j'ai l'impression qu'ils ont tout fait pour ne pas mettre de love interest, histoire de dire ça doit rester une femme indépendante forte. Sauf que, par contre, ils veulent absolument pas faire un buddy movie homme-femme. Ça, c'est inconcevable. Donc, du coup, c'est vraiment dans un entre-deux, quoi. Putain, faites un buddy movie mixte, quoi, merde.
C'est pas un love interest. Au début, elle le branche parce qu'il est beau gosse, quoi.
Elle le branche parce qu'il est beau gosse, elle garde quand même cette espèce de force aussi. Enfin, ils essaient de montrer qu'elle est aussi capable de s'affranchir de ça. Donc c'est pour ça, c'est toujours entre deux. On sait pas vraiment où ils vont, quoi. Ils savent pas écrire des personnages. Ça, c'est surtout le gros problème, quoi.
Et à la fin, ils se jettent des petits regards comme ça. Bon, ouais.
Non, mais ça coche plus de cases que ça ne crée de personnages, en fait.
Mais en fait, le moment où elle le voit et elle bave dessus, c'est un peu pour dire, ouais, ben nous aussi, les femmes, on drague les mecs, tu vois. Enfin, on sait regarder les mecs et on s'en cache pas, tu vois. C'était pas trop lourd, mais c'était un petit peu lourd à mon goût, mais sinon, ça va.
Le personnage féminin de je vais y arriver, Tessa Thompson, de M, de Molly, bah du coup, son objectif de départ, c'est, je veux rentrer chez les Men in Black. Ben, elle y arrive au début, et comme tout le début, on te montre qu'elle est super douée, super forte physiquement, qu'elle peut rentrer dans n'importe quelle agence, de la CIA, à la NSA, au FBI, à tout ce qu'on veut, ben, du coup, il n'y a plus d'enjeu aussi pour le personnage après, puisqu'une fois qu'elle est là, c'est ben, « ok, je vais faire ma mission pour passer de stagiaire à agent mais... ».
C'était certain les machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
Merci Yassar.
Merci Thomas.
Et merci David.
Merci Thomas.
Alors, c'est le petit instant promo, avant que tout le monde oublie à cause de Flashouilleur. Mais...
Oui, bah du coup, on est toujours dans la saison 2 de Pamela Target, que vous pouvez venir écouter sur www.pamelatarget.com. Voilà, on a fait une série barrée funky, des épisodes courts de moins de 5 minutes, avec plein de références justement au cinéma, pop culture, aux séries qu'on aimait, qu'on regardait quand on était un peu moins vieux. Et voilà, donc si vous aimez l'histoire complètement barrée, ben on vous attend, on espère que vous rirez avec nous de Zygomatic Ferme.
Est-ce que vous avez parodié MIB ?
Non, mais oui, il faudrait y penser, oui. Ouais.
Ne vous faites pas effacer cette idée. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez l'épisode pour nous soutenir. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram à Clac Podcast, C-L-A-A-C Podcast.
Podcast.
Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur votre application préférée. Et si vous n'avez pas d'application préférée, c'est triste, hein, ça peut arriver, vous pouvez aller sur notre page Ocha. AUSHA, il y a les liens dans la description, voilà, vous trouverez facilement. Et là, il y aura une application, vous verrez, vous trouverez votre bonheur. À très bientôt pour un nouveau film.
Et merci de cette invitation. C'était super sympa de pouvoir partager un film avec vous et d'en parler à chaud, effectivement, à la sortie. Il y a un petit côté un peu challenge qui est... que la performance est renouvelée tous les jours quasiment. Là, bravo à l'équipe, hein, bravo.
Merci.
Mais merci, c'est un plaisir. À très bientôt. Bisous, bisous, bisous.
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 Bisous, 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 la foule.
Alors, David, regarde cette lumière. Voilà. Alors David, Pamela Target, ça n'existe pas. En fait, tu tiens un blog qui s'appelle Les 61 000 vies d'Octave, où tu postes des photos d'Octave toutes les 10 minutes dans des positions pas toujours très confortables. Mais évidemment, tu fais les liens vers tous les épisodes parce que tu es fan. Et grâce à toi, la Terre entière connaît Octave. Yassa, regarde cette lumière. Bon, c'est bon, Karl, tu peux revenir.
Oh putain, connard.